Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat mais aussi d'opinion avec les auditeurs, l'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est RTL a testé les premières heures du pass vaccinal. Qu'est-ce qui change ou pas? Hortense Crépin, vous verrez, a fait l'expérience. Dans ce journal également, Emmanuel Macron à la campagne, mais pas encore officiellement en campagne. Et puis la femme du jour, Alizée Cornet, qui décroche enfin sa place en quart de finale d'un grand chelem.
Nos deux sujets du jour. Faut-il vraiment croire l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui juge plausible la fin de l'épidémie de Covid en Europe ces prochaines semaines? Et puis je vous le disais, donc à 12h50, la prostitution des mineurs à Paris, le nombre de plaintes a été multiplié par 4 en 9 ans.
La question du jour, pardon, sur RTL.fr. Faut-il maintenir notre présence militaire au Mali? Question posée après le décès ce week-end d'un militaire français, le brigadier Alexandre Martin. Et vous dites non à 75%. La météo du jour, c'est avec vous, Louis Baudin. Bonjour Louis.
Bonjour Amandine.
C'est mieux que prévu, bien mieux que prévu.
Oui, exactement, on a eu de la grisaille tout au long du week-end dans la moitié nord. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le même anticyclone, on se dit bon, ça va encore persister. Eh ben non, ça s'est levé ce matin et donc du coup, le soleil devrait s'imposer, y compris dans la moitié nord. Alors, il va rester quelques exceptions quand même. La Bretagne, les Flandres ou encore dans le centre, là, entre le sud de la Bourgogne, en allant vers l'Orléanais, on a parfois encore des nuages, mais là aussi, ça pourrait se lever. Un peu plus de nuages autour du golfe du Lion et ailleurs donc du soleil. En revanche, toujours des températures hivernales, hein, pas plus de 4 à 8 degrés cet après-midi dans la moitié nord, 9 à 13 dans le sud.
Merci beaucoup, Louis. À tout à l'heure, 13h, pour une météo complète. On verra ce qui nous attend pour cette semaine.
RTL Midi.
Et pour commencer donc les débuts du pass vaccinal, on va retrouver Hortense Crépin dans un petit instant qui a mené l'enquête sur ses premières heures. Pass vaccinal, on le rappelle, obligatoire depuis ce matin pour les plus de 16 ans. De 12 à 15 ans, c'est toujours le pass sanitaire qui est la règle. Et pour les plus jeunes, pour les moins de 12 ans, Jean-Michel Blanquer espère que les parents vont finir par franchir le pas. Aujourd'hui, seuls 3,5% des 5-11 ans sont vaccinés.
Cette campagne a commencé un peu lentement, d'abord du fait des circonstances complexes du mois de janvier, et puis parce que ça a toujours été comme ça. Il y a un peu un mode diesel, si vous me permettez l'expression. On a eu aussi ça pour les 12-17 ans, donc le décollage a commencé. On a lancé une vaste campagne de communication via les écoles auprès des parents. Et évidemment, mon message est très clair, c'est il faut faire vacciner les enfants. C'est important et pour eux personnellement, et pour leur entourage, et pour notre société. Et je ne doute pas que ça va beaucoup augmenter au cours des prochaines semaines.
L'appel du ministre de l'Éducation nationale en déplacement dans un collège de Tourcoing au micro RTL de Franck Hanson. Comme promis, retour sur ses premières heures de passe vaccinale. Bonjour Hortense Crépin.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Depuis ce matin, impossible d'aller boire un café ou de prendre le train sans, ça c'est pour la théorie, mais RTL a voulu vérifier comment ça se passait concrètement sur le terrain, dans la vraie vie comme on dit. Hortense, donc c'est vous qui avez fait ce test dans le 9e arrondissement de Paris, dans le quartier Saint-Lazare.
Oui, alors pour commencer, direction la gare, à l'arrivée des trains ou dans un flot de valises, j'ai croisé pas mal de voyageurs comme Delphine.
Comme d'habitude, en fait, je suis arrivée avec mon billet, je me suis installée dans le train, j'ai pas été contrôlée de mon pass vaccinal. Je me suis installée, il y avait pas grand monde dans le train. Je me suis aperçue que le monsieur qui n'arrêtait pas de tousser derrière moi n'avait pas son masque, mais je m'en suis aperçue à la fin. Et voilà, j'ai même pas été contrôlée de mon billet.
Donc, pas de passe ni de billet contrôlé. Donc, même chose pour les autres voyageurs que j'ai pu interroger. Je me suis ensuite dirigée vers le cinéma.
Une place pour Wistreya.
Pas de passe sanitaire.
Alors, je vous donne le passe.
Alors là, on me demande bien mon QR code. Je prends ensuite la direction de la salle de sport. Je m'y rends. On m'explique que le passe est contrôlé. Mais quand j'interroge un pratiquant à la sortie...
Pour le moment, l'annonce n'est pas fait contrôler avant de boire un verre. Ce qui est assez courant en fait dans Paris, au bout du compte, de ne pas se faire contrôler à chaque fois.
Bon, finalement, Hortense, pas ou peu de changements par rapport au pass sanitaire.
Oui, c'est le cas notamment dans les cafés où vous vous en souvenez, c'était un peu kit ou double. Quand je m'y installe pour en commander un, on me demande mon pass. Mais si je vais dans l'établissement d'à côté, pas de contrôle pour Tom et ses amis par exemple. Et bien, ce qui est d'ailleurs aussi marquant, c'est que j'ai appris à beaucoup de monde ici que le pass sanitaire était désormais le pass vaccinal.
Effectivement, il va falloir peut-être un peu de temps pour s'y mettre. Enfin, c'est pas faute d'avoir été prévenu. Merci à vous.
C'est ça qui est tout à fait étonnant. Si les gens ne savent pas que c'est un pass sanitaire qui a remplacé le pass vaccinal.
Non, c'est le vaccinal qui a remplacé le sanitaire, oui. Pascal. Même vous, vous y trompez. Merci beaucoup, en tout cas, Hortense Crépin.
Mais s'ils ne le savent pas, vraiment, là, faut faire quelque chose.
On rappelle que les professionnels qui ne contrôlent pas les passes peuvent être soumis à d'éventuelles sanctions. Sanctions qui ont été durcies, d'ailleurs, pour ceux qui présentent un faux pass vaccinal. C'est désormais, on le rappelle, 1 000 euros d'amende hein, dès la première infraction, jusqu'à 3 ans de prison.
Tout à fait autre chose, Emmanuel Macron débute une visite de 2 jours dans le Limousin.
La première étape, la Creuse, et une quasi-certitude, ce n'est pas là-bas, ni d'ailleurs aujourd'hui, hein, qu'il compte officialiser sa candidature, William Galibert.
Oui, on va attendre encore un petit peu. Le Covid est toujours là. Et non, la candidature, ce n'est pas pour tout de suite. Un étudiant, d'ailleurs, vient tout juste de lui poser la question. Alors, vous y allez, vous allez rempiler, je le dirai, en temps utile, réponse au prochain épisode. Voilà ce que lui a rétorqué le président. Donc, on attend. Mais bon, Amandine, franchement, est-ce que ça change quelque chose? Non. Non, d'abord parce que le suspense n'est pas vraiment insoutenable. Et puis, candidat officiel ou pas, Emmanuel Macron est déjà en campagne. Il est ici dans un lycée agricole. Excusez mon langage, mais il a commencé sa journée littéralement au cul des vaches dans une étable. L'idée, c'est de montrer tout ce qui a été fait pour la formation et pour la ruralité au sens large. L'accès à la santé, aux services publics sera aussi au programme de ces 2 jours. Essayer de montrer que le chef de l'État a un bilan et qu'il n'est pas seulement le président des villes. Un échange sur tous ces thèmes va commencer dans un instant dans un gymnase où le président sera entouré par une cinquantaine de lycéens. Premier échange d'une longue série d'ici demain soir.
William Galibert en direct d'Ain, dans la Creuse pour RTL. À gauche, clôture des inscriptions pour la primaire populaire et à l'arrivée, ce sont 467 000 électeurs qui vont pouvoir voter dès jeudi, bien plus qu'annoncé. Dans ce contexte, une petite phrase a pas mal fait réagir ce matin, c'est celle de l'ancien président François Hollande face à des lycéens de Seine-Saint-Denis.
Bah pour l'instant, je ne suis pas candidat, tu as remarqué. Mais comme ça ne va pas bien, c'est vrai que... Il faudrait se dire, est-ce qu'une candidature de plus serait utile? Je ne sais pas. Je ne pense pas, d'ailleurs. Et un ancien président peut très bien refaire de la politique et c'est arrivé, être candidat à l'élection présidentielle.
Est-ce que vous allez prendre une décision bientôt?
Je vais en tout cas prendre la parole bientôt.
François Hollande, pas candidat, pas pour l'instant. Écoutez ce qu'on disait ce matin sur RTL, Anne Hidalgo, bien candidate-t-elle.
François Hollande, que je vois régulièrement, a beaucoup d'humour et je crois qu'il a fait preuve de beaucoup d'humour devant ses élèves de seconde. Et je suis pas là pour commenter les petites phrases, même celles de François Hollande.
Bonjour Marie-Bénédicte Heller.
Bonjour.
C'était une blague de François Hollande, cette histoire?
Non, c'est pas une blague. C'est une phrase volontairement ambiguë et destinée à faire réagir. Alors soyons clairs, son entourage embarrassé dégonfle l'idée qu'il pourrait être sur les rangs en avril prochain, mais il veut peser dans le débat et il prendra prochainement la parole. Selon nos informations, ce sera mi-février, après le résultat de la primaire populaire. Pour dire quoi? Pour donner son avis sur les programmes des différents candidats, y compris de gauche. Tout le monde dit n'importe quoi, il n'y a pas d'argent magique, s'exclame son entourage. Et François Hollande aime le sérieux budgétaire, il ne cautionne pas les promesses chiffrées en milliards d'euros. Et puis, l'ancien président s'inquiète aussi du climat à droite. Le discours d'Éric Zemmour n'infuse pas de bonnes ondes, selon un proche. Enfin, il pense toujours à lui. Il a observé qu'il était la 4e personnalité préférée des Français dans certains sondages, juste derrière Nicolas Sarkozy. Et donc, il en profite pour apparaître comme un... possible recours ou au minimum une autorité morale.
Marie-Bénédicte Heller du service politique de RTL. Et les ministres des Affaires étrangères européens réunis en ce moment même à Bruxelles pour faire le point sur la crise ukrainienne. Échange avec Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain qui lui est à distance en visio. Bonjour Bénédicte Tassa.
Bonjour.
Les États-Unis annoncent le rapatriement des familles de leur personnel diplomatique. Les Européens, eux, préfèrent attendre.
Oui, les Américains hier, puis les Britanniques aujourd'hui évacuent certains de leurs ressortissants. Des décisions jugées prématurées par les autorités ukrainiennes et qui surprennent également les Européens, comme Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, à son entrée à la réunion bruxelloise ce matin.
Le secrétaire d'État Blinken va nous expliquer la raison de cette annonce, mais nous n'allons pas faire la même chose car nous ne connaissons pas les raisons spécifiques. Je ne crois pas qu'il faille dramatiser tant que les négociations continuent, et elles continuent. Mais peut-être que Blinken a d'autres informations, mais il va les partager.
He will share with us. Et pendant ce temps, l'OTAN renforce sa présence côté est en plaçant des navires et des avions. C'est le cas de 4 avions de chasse suédois missionnés pour soutenir la police aérienne de l'OTAN en Lituanie ou encore des bateaux espagnols en mer Noire. La France, elle, est prête à expédier des troupes en Roumanie. Aux États-Unis, Joe Biden envisagerait d'envoyer 1 000 à 5 000 soldats.
Bénédicte Tassard, chef du service étranger de RTL. Et puis toujours à l'étranger, ce probable nouveau coup d'État au Burkina Faso. Le président a été arrêté cette nuit. Il serait depuis maintenu en détention dans un camp militaire par des mutins qui réclament le départ des chefs de l'armée et des moyens adaptés, ce sont leurs revendications, à la lutte contre les djihadistes.
À l'Open d'Australie, la sensation du jour est française.
Élisée Cornet décroche sa place pour les quarts de finale en battant la Roumaine Simona Halep. Bonjour Isabelle Langer.
Bonjour.
Élisée Cornet qui a fêté ce week-end ses 32 ans, c'est son 63e Grand Chelem, 63, mais c'est la toute première fois qu'elle se qualifie pour un quart de finale, ça paraît fou.
Ah ouais, c'est complètement dingue, hein. Et ses larmes sur le court ce matin en disaient plus long que tous les discours.
C'est tellement, tellement de choses qui retombent en fait. Je pense que c'est presque ces 13 dernières années qui me sont revenues en mémoire. Je me suis rendu compte de ce que j'avais fait et c'est inexplicable. Mais ces larmes, voilà, elles faisaient remonter beaucoup, beaucoup de choses.
Parce qu'il y a 13 ans déjà, à l'Open d'Australie, Cornet était passé à 2 balles de match d'un premier quart de finale en Grand Chelem. Il faut savoir que 2022 pourrait être la dernière saison de la Niçoise sur le circuit. Et c'est peut-être aussi pourquoi elle est plus relâchée, qu'elle se met moins de pression, qu'elle profite de l'instant présent. D'ailleurs, Élisée Cornet a mis en place une petite routine.
Avant de dormir tous les soirs, je me dis que je vais gagner le tournoi. Et en fait, c'est vrai que ça fait pas de mal de se faire un petit peu d'autoconviction positive parce que on est toujours tellement en train de se poser des questions. Et voilà, là, je me suis dit, ben, pourquoi pas finalement? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas aller au bout? En tout cas, si je suis pas la première à y croire, personne n'y croira pour moi. Donc voilà, ça part de là.
Mais nous aussi, on a quand même envie d'y croire.
Oh bah oui, c'est ça la recette du succès.
Mais
en fait,
elle a tellement raison.
Mais ouais. Et on surveillera aussi Gaël Monfils hein, demain, Isabelle Langer, voilà. La nuit prochaine, oui.
Elle a tellement raison. Merci Isabelle. Notre premier sujet du jour, l'OMS qui juge plausible la fin de l'épidémie de Covid en Europe. Premier débat de ce 12h30. Faut-il vraiment croire l'Organisation mondiale de la santé ? À tout de suite.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
It's plausible.
Il est plausible que l'Europe se dirige vers une sorte de fin de la pandémie. Pas la fin du Covid-19, mais bien la fin de la pandémie. Le Covid-19 pourrait revenir vers la fin de l'année, mais pas nécessairement sous la forme d'une pandémie.
C'était ce week-end le patron de l'OMS Europe qui qualifie de plausible la fin de l'épidémie de Covid sur notre continent. On a bien sûr tous envie d'y croire, mais est-ce vraiment plausible, justement? Faut-il croire à l'Organisation mondiale de la santé qui s'est parfois trompée au cours de ces 2 dernières années? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour.
Vous êtes chef du service santé ici à RTL. Olivier Bouchot est également en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Docteur, d'abord, ça vous semble plausible, justement, pour reprendre les mots de l'OMS, cette fin de l'épidémie en Europe ?
Alors, le terme plausible est un terme mesuré. Hein. Chacun l'aura compris, sachant que l'OMS n'a pas l'habitude de faire des annonces sans avoir un petit peu de biscuit pour assurer ces annonces. Ils font rarement dans la subjectivité, même si, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, et comme beaucoup d'autres, ils ont pu se tromper.
Oui, il nous avait dit que les masques, il n'y en avait pas besoin. Ça, c'était au tout début de l'épidémie. Et puis alors, la semaine dernière, mardi dernier, le patron de l'organisation disait « L'épidémie est loin d'être terminée ». Pour les auditeurs, vous comprenez que c'est compliqué à suivre, c'est presque l'accent. Et pour être très très franche, on a hésité à traiter le sujet sur RTL ce midi en se disant bah, un jour ils disent noir, le lendemain ils disent blanc. C'est compliqué, non ?
Oui, ça je le conçois bien. Alors, peut-être aussi qu'il y a une nuance sur les termes qui sont utilisés, parce que le terme de pandémie signifie épidémie généralisée à l'ensemble du globe terrestre, donc à l'ensemble de la population mondiale. Et là, on parle de l'épidémie en Europe, ce qui est un petit peu différent, puisque l'Europe va avoir un taux de couverture vaccinale globalement assez fort, et notamment si on parle de la France, on voit bien qu'on a un taux de couverture importante, et que l'épidémie d'Omicron, en touchant énormément de gens, complète cette couverture de protection immunitaire, ce qui va faire que entre personnes immunisées naturellement par la maladie et personnes immunisées par le vaccin, ça va commencer à faire une vraie barrière à la circulation du virus. Et donc on peut concevoir qu'en Europe, dans les semaines, parce qu'on n'est quand même pas tout à fait sorti là sur le court terme, et dans les mois qui viennent, le virus est de grandes difficultés pour continuer à circuler. Et donc on peut effectivement s'attendre à ce que dans les semaines et les mois qui viennent, et ça ne soit plus le souci qu'on a
vécu. Pour synthétiser, vous validez ce qu'a dit l'OMS.
Oui, ça me paraît plausible.
Virginie Garin, on nous avait promis une baisse du nombre de cas depuis plusieurs jours, hein, ici même sur RTL d'ailleurs, on disait c'est pour bientôt la baisse, etc. On la voit pas, comment on peut interpréter ces chiffres?
Alors, c'est vrai que ça fait des semaines que les épidémiologistes prévoient notre avenir en regardant les courbes en Afrique du Sud et en Grande-Bretagne où Omicron est arrivé avant. Alors là-bas, les courbes, elles ont mis une vingtaine de jours à redescendre. Chez nous, maintenant, ça fait 30 jours, et bien elles continuent de monter, sauf dans les régions où le variant s'est développé avant Noël. Alors, bon, nous, on a eu Delta assez fortement au début décembre, contrairement aux Britanniques. Donc, il restait peut-être la vague de Delta à digérer. Après, les Espagnols ont eu Delta aussi, mais eux, ça baisse depuis une semaine. Autre hypothèse, le fameux variant Omicron BA2, le petit cousin qui vient d'arriver, qui fait flamber les cas au Danemark. Alors, on va voir cette fin de semaine si le pic arrive. Sinon, il faudra sérieusement s'interroger sur ce nouveau variant.
Olivier Bouchot, quelle est la situation dans votre hôpital, l'hôpital Avicenne?
Alors, on va vraiment vers une forte amélioration. Et comme dans les vagues précédentes, ça s'est passé très vite. C'est-à-dire que en fin de semaine, non pas dernière, mais d'avant, on avait encore une très forte tension. Et brutalement, c'est-à-dire ça s'est joué sur quasiment 2 ou 3 jours. En début de semaine dernière, le nombre d'admissions avec des formes graves s'est quasiment interrompu d'un seul coup.
Robert Sebag disait l'autre jour quelque chose qui m'a étonné. Il disait qu'il n'y avait pas de mort avec Omicron. Personne ne mourait d'Omicron.
Alors, c'est difficile d'être aussi catégorique et de dire qu'il n'y a pas de mort, parce que les personnes fragilisées peuvent quand même faire des formes graves. Mais c'est vrai que ce qu'on voit actuellement en réanimation, c'est encore la queue, si je puis utiliser ce terme-là, de l'épidémie avec le Delta.
Mais vous n'êtes pas surpris de ça? Parce que là, moi, le béotien que je suis, est vraiment très surpris de ça, que personne entre en réanimation avec ce virus Omicron.
Alors, on ne peut pas dire personne, parce qu'il y a quand même quelques patients qui sont rentrés en réanimation avec Omicron. N'oublions pas qu'il y a toujours un décalage entre ce qu'on voit dans les services d'hospitalisation et ensuite dans les services de réanimation, et que si l'Omicron est effectivement moins sévère, moins grave, ce décalage peut être encore un petit peu plus
long.
Donc
il faut attendre un peu.
Et je pense qu'il faut attendre un peu avant d'avoir...
Mais vous seriez surpris, comme le béotien que je suis
Bah, écoutez, Omicron est clairement, entraîne clairement moins de formes graves.
Mais c'est même pas de forme grave, s'il n'y a pas de mort ou très peu. Vous voyez, on n'est pas dans moins. C'est ça qui me surprend le plus.
Oui, alors c'est là où on est encore un petit peu tôt pour dire qu'il n'y a pas de forme grave avec Omicron.
Donc il faut attendre. Prudence.
Oui.
Virginie,
il n'y a pas de chiffre encore qui montre vraiment qu'Omicron n'entraîne pas des gens vers la mort. En tout cas, il y a des
c'est ce que disait Robert Sebag, qui est à la Salpêtrière.
Les chiffres du ministère de la Santé ne le confirment pas. Donc il y a forcément, on peut penser malheureusement, des gens qui ont eu Omicron et qui sont dans un état grave à l'hôpital. Ce qui compte surtout, plutôt que de regarder sans arrêt la flambée des cas, c'est ce qui se passe à l'hôpital. Et c'est vrai que la baisse est effective dans les services de réanimation. Donc la réalité, c'est que grâce au vaccin, il y a beaucoup moins de cas graves. Qu'il y a des médicaments qui sont...
Grâce au vaccin, grâce aussi au fait que Omicron soit moins dangereux.
Aussi, mais si Omicron est arrivé peut-être, ce serait un autre débat, on n'a pas le temps, mais c'est peut-être aussi lié au vaccin. Et puis, il y a des médicaments qui vont arriver, ça c'est très important. Donc, à terme, on peut arriver à une épidémie un peu moins dangereuse, qui se soigne avec des médicaments, qui se prévient avec des vaccins pour les plus fragiles. Voilà, donc il y a quand même des raisons d'être optimiste.
Eh bien, ça c'est des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Monsieur Bouchot.
Je vous en prie.
Je rappelle que vous êtes chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Merci à Virginie Garin, toujours extrêmement précise sur ces sujets. Le deuxième débat est lourd, si j'ose dire, puisque la prostitution des mineurs à Paris, le nombre de plaintes a été multiplié par 4 en 9 ans. Gros plan sur ce phénomène dans une seconde.
RTL Midi. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Beaucoup d'hommes sont en recherche de jeunesse. Ces hommes ont 40 ans, ces hommes sont mariés et sont en recherche de cette chair fraîche. C'est horrible à dire, mais ils sont en recherche de ça.
Nina a commencé à se prostituer à l'âge de 15 ans. 15 ans seulement, comme elle, de plus en plus de mineurs n'hésitent pas à franchir le pas. 10 000 à 15 000 d'après les associations. Et à Paris, le nombre de plaintes pour proxénétisme de mineurs a donc explosé, multiplié par 4 en 9 ans. Bonjour Nerissa Emani.
Bonjour Amandine.
C'est vous qui avez enquêté sur ce sujet pour RTL et révélé ces chiffres ce matin qui font froid dans le dos. Revenons au cas de Nina, cette jeune fille qu'on vient d'entendre. Comment en est-elle arrivée là ?
Eh bien, cette fille de bonne famille dont les parents sont chefs d'entreprise dans le Nord est tombée dans la prostitution en troisième. Cette bonne élève est harcelée au collège et commence à fuguer.
Je cherchais surtout de l'argent et de la liberté. C'était surtout ça. Le fait que je sois fort imprégnée par l'image des réseaux sociaux, de jeunes femmes avec le corps refait, en train de voyager constamment dans de belles voitures avec de beaux bijoux et de la belle marque, ça m'a donné envie en fait de vivre ça aussi. C'est comme ça que je suis tombée dans l'argent facile.
Elle va donc poster des dizaines d'annonces sur des sites d'escort girl où elle prétend avoir 18 ans. Des proxénètes l'encouragent à enchaîner jusqu'à 15 passes par jour dans des hôtels parisiens, lillois ou espagnols.
Beaucoup d'hommes sont en recherche de jeunesse. Ces hommes ont 40 ans, ces hommes sont mariés et sont en recherche de cette chair fraîche. C'est horrible à dire, mais ils sont en recherche de ça. Et je pouvais faire jusqu'à 1 000-1 500 euros par jour. Je me reconnaissais plus, j'avais plus d'identité. On m'enlevait une part de moi qu'on me rendait pas en fait. Je me sentais sale.
C'est finalement grâce au soutien de ses parents que Nina quitte la prostitution l'été dernier à 19 ans. Elle a même recommencé des études de commerce à Lille.
C'est si facile. C'est si facile que ça que de s'inscrire sur ce genre de site ? Parce que vous parliez de l'inscription sur les sites internet ?
Oui, j'ai essayé. J'ai créé un faux profil d'escorte sur un site de petites annonces très utilisé par des prostituées mineures. Juste après la catégorie recherche d'emploi et immobilier, vous avez une catégorie rencontre éphémère. On me demande d'abord de certifier sur l'honneur que j'ai plus de 18 ans. J'ai juste à cliquer sur oui, mais pas besoin de carte d'identité.
C'est dingue.
Je crée un pseudo.
C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que pour aller sur un site de la Française des Jeux, il faut envoyer son passeport, sa carte d'identité, etc. Mais sur un site pornographique, rien n'est demandé.
Voilà, pas besoin de contrôle. Vous avez juste à créer un pseudo. On vous demande votre couleur de cheveux, votre taille de soutien-gorge, si vous déplacez, si vous recevez. Et du coup, c'est parti. Et au bout de quelques heures, j'ai reçu plusieurs messages d'hommes intéressés. Sur le site, j'ai même vu des jeunes filles proposer leurs services tarifés avec, sur des photos, des visages juvéniles. Elles s'affichent en sous-vêtements sexy. Certaines posent même dans leur chambre d'ado en pyjama Mickey.
Le nombre de plaintes donc, pour proxénétisme de mineurs a été multiplié par 4 en 9 ans à Paris. Fois 4 en 9 ans, c'est énorme, mais ça reste sans doute en deçà de la réalité.
Oui, prenez le cas de Nina, par exemple. Elle n'a jamais porté plainte contre ses proxénètes. Elle estime qu'elle est la seule coupable. Un comportement très fréquent chez les jeunes prostituées, comme l'explique Christophe Molmy. Il est le chef de la brigade de protection des mineurs à Paris.
Quand dans des affaires, on dégringole les proxénètes, elles disent « mais moi, personne ne m'a forcé ». Donc elles ne se considèrent pas victimes. Donc elles ne déposent pas plainte, souvent. C'est rare, mais dans certaines affaires, on a vu des prostituées aller au procès pour défendre les proxénètes en disant « mais moi, il était gentil, s'occupait de moi, je ne vois pas pourquoi on est là ». Ça complique encore la tâche.
Les plaintes viennent en majorité des familles, de l'éducation nationale ou des associations. Et pour traiter les plus gros dossiers, la Brigade des mineurs à Paris a créé en septembre dernier un groupe de 7 enquêteurs dédiés uniquement à la lutte contre le proxénétisme.
Ce n'est pas qu'un phénomène parisien.
Non, c'est partout en France. D'ailleurs, selon les derniers chiffres du gouvernement, sur l'ensemble du territoire, le nombre de victimes a été multiplié par 4 en 5 ans. On recense 400 victimes en 2020 contre 116 en 2016. C'est en majorité des filles de 15 à 17 ans issues de milieux défavorisés qui ont subi des violences sexuelles durant la préadolescence ou l'enfance.
Nerissa, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ?
Il n'y a pas de recette miracle, mais la prévention est l'un des gros enjeux de la lutte. Appeler à la vigilance des parents, par exemple, mais aussi sensibiliser les jeunes dès l'entrée au collège aux dangers des réseaux sociaux et à celui du harcèlement. Le gouvernement a d'ailleurs présenté pour la première fois en novembre un plan de 14 millions d'euros pour lutter contre la prostitution des mineurs, avec 4 points, informer, repérer, accompagner ces mineurs et puis renforcer l'action judiciaire contre les clients et les proxénètes.
Merci Nerissa.
Merci et je rappelle le chiffre que donnait Amandine au tout début de ce débat, 10 à 15 000 jeunes filles d'après les associations. C'est important, c'est un chiffre qui effectivement peut faire froid dans le dos. Il est 12h58, on va rappeler les principaux titres dans le journal de 13h et puis les auditeurs vont arriver au 3210, à tout de suite.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Vous avez peut-être regardé hier soir l'émission Zone Interdite sur M6 face au danger de l'islam radical, les réponses de l'État. C'était un grand reportage. Certains magasins de jouets, par exemple, vendent des poupées sans visage afin de respecter une version ultra radicale de l'islam. On va en parler. On est déjà avec José en direct de Marseille. Bonjour José.
Oui, bonjour.
Vous avez peut-être un commentaire à faire sur ce que vous avez
vu. J'ai vu le reportage excellent, édifiant sur la propagation de l'islamisme en France. Voilà.
Ben on va en parler.